Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bienvenue au Balado Urbania.
Eh bien, si c'est pas tous mes amis et statistiquement quelques ennemis, réunis ici pour un autre épisode des pires moments de l'histoire. Le podcast où je vous raconte toutes les fois où ça s'est mal passé dans le passé, et ça alors que vous êtes possiblement en train de faire de l'anxiété avec le présent. Vous auriez raison, il commence à faire chaud, souvent et longtemps. Puis je vous avertis, moi, la seconde où le contrat social s'écroule, je deviens le roi des cannibales, et ce sera plus le temps de venir me voir pour me dire que vous aimez le podcast, les chums. Mais je m'égare. Vous serez malheureux d'apprendre que c'est une fois de plus le moment de la saison où la production me met littéralement le canon d'un revolver sur la tempe pour vous parler de contenu canadien.
Vous avez raison, texte, mon chêne.
Et quoi de plus intéressant que le Canada? Certains diraient même le plus meilleur pays au monde. Mais je ne ferai pas ça, ça aurait l'air stupide. Bref, un pays magnifique, de relief sauvage d'un océan à l'autre, une terre promise de liberté où affluent des gens de partout dans le monde pour contribuer à un prestigieux idéal parlementaire anglo-saxon qui fait le bonheur de tous. Tous? Non! Seule une petite province de tonitruants québécois s'obstine encore et toujours à avoir une culture distincte où on parle français viande à chien. Mais d'où viennent ces weirdos? Et si je vous racontais l'histoire de cette fois où la France a décidé de se partir une colonie en Amérique du Nord, avant de s'en écœurer super rapidement, la relayer au rang de magasin général pour faire des chapeaux, j'aimerais tant que ce soit une blague, et finalement l'échanger aux Anglais avec la froideur d'une transaction de cartes Pokémon. Ce qui n'est pas un bon exemple, j'ai déjà vu des gens pleurer pour un Blastoise. Bref, cette féerique épopée coloniale, c'est bien sûr celle de la Nouvelle-France! Histoire que je ne vous raconterai pas au complet parce que ça s'étale de 1534 à 1763 et le résultat serait un podcast répétitif et assommant.
À l'image de la Nouvelle-France, dans le fond.
Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est de vous résumer la période de la colonie française en Amérique en vous racontant juste le début et la fin. Hein? Comme une histoire d'amour. C'est le fun de savoir comment ça a commencé et comment ça a éventuellement chié sans nécessairement passer par le bout où la magie s'éteint parce que la France commence graduellement à se tanner de comment le Canada c'est trop grand avant de revenir au 20e siècle fasciné d'à quel point le Canada c'est grand. Voilà! La Nouvelle-France! Ça va, ça? S'il vous plaît, dites-moi que ça vous va! Donc, comme le diraient les Français... Allez, par moi le générique, Casti! Je n'aime pas quand vous faites ça. C'est... notre mot.
Jacques Cartier et les diamants du Canada.
«
Il fut un temps au Moyen-Âge européen où on préférait s'aventurer en mer le moins possible parce qu'on croyait que c'était en fait un restant du déluge, celui avec lequel Dieu avait jadis essayé de tuer tout le monde sur la Terre, dans lequel nageait maintenant un gros paquet de monstres. Fair enough. Mais tout ça va changer au milieu du 15e siècle quand l'Empire ottoman va bloquer la route de la soie pour faire chier, privant ici les Européens des trésors de l'Asie, comme les épices, qui à l'époque se vendent littéralement au prix de l'or, parce qu'au Moyen-Âge, toute la nourriture est soit bouillie ou, dans le meilleur des cas, dégueu. Et là, vous connaissez l'histoire, c'est le début du grand âge de l'exploration maritime pour trouver une nouvelle route jusqu'en Asie. À un moment donné, il y a un Italien qui va prendre un mauvais tournant et découvrir l'Amérique. Mais dans les faits, toute une mosaïque de peuples autochtones était déjà tombée dessus et s'était répartie partout sur un continent que les Européens vont bientôt commencer à piller comme jamais. L'Amérique. Pendant ce temps, au 16e siècle, ça fait déjà un petit bout de temps que le bon roi de France, François Ier, déprime en regardant les galions espagnols de son rival, l'empereur Charles Quint, revenir d'Amérique du Sud avec des cales remplies de...
L'or des Incas!
Chose qui va s'arranger très rapidement quand le pape va assouplir le traité de Tordesillas qui divisait l'Amérique entre l'Espagne et le Portugal, puis là, personne pouvait aller là à part eux, sinon tu te faisais excommunier. Ouais, sauf que là, on va décider que cette règle-là s'applique pas aux territoires qui n'ont pas encore été explorés, genre l'Amérique du Nord. Oui, là, vous m'excuserez, je viens de passer ce paragraphe-là sur le pilote automatique. Je sais que c'est pas de la bouffe, mais on dirait que maintenant, j'ai juste envie de me commander des Tordesillas. L'affaire, c'est qu'étant donné que les bateaux espagnols sont revenus pleins
d'or des Incas,
François Ier est persuadé qu'en Amérique du Nord, peu importe où tu vas, il y a plein d'or qui traîne partout comme des cocos de Pâques Cadbury. Ouais, d'ailleurs, c'est-tu moi où ces affaires-là deviennent de plus en plus petites à chaque année? Y a-tu un lapin qui essaie de me fourrer ou c'est juste moi qui est devenu un adulte puis mes mains ont grossi? Le roi va donc confier la mission de se rendre en Amérique à un capitaine du nom de Jacques Cartier, avant que ça devienne un pont où on se fait maxi-chier pour rentrer ou sortir de Montréal, mais c'est correct parce qu'on a posé des genres de lumières de Noël dessus.
Allez planter notre drapeau tricolore et prendre possession en mon nom de cette espèce de France nouvelle. Je ne sais pas trop comment l'appeler, une sorte de nouvelle... France.
D'accord, mais comment est-ce qu'on va l'appeler?
C'est donc le 28 avril 1534 que Jacques Cartier et un équipage boboche principalement composé de cousins éloignés partent pour le Nouveau Monde. D'ailleurs, cette première traversée de l'Atlantique va être effectuée en un temps record de genre 20 jours à une époque où, de façon générale, tout prend des mois à bord de bateaux de merde.
Oh, tonnerre de Brest! Mais quelle est cette odeur dans la cale?
Je me demandais la même chose, capitaine. Je crois que c'est soit le swing de certains matelots, soit le vomi d'autres matelots, ou alors les fientes des rats qui mangent nos rations de biscuits secs, à propos desquels on se disait récemment qu'il valait mieux les manger dans le noir pour ne pas voir ce qui y grouille.
Seigneur, que ça grouille! Oh, marin d'eau douce, on ne perdra pas une minute de plus sur ce rafio! Mettez toute la gomme pour qu'on arrive à destination au plus vite, bande de bachibouzouk!
Wow, capitaine!
Quoi, c'est raciste?
Honnêtement, aucune idée.
En plus, on s'oriente approximativement avec genre des astrolabes, peu importe ça fait quoi dans la vie cette affaire-là, ça a l'air d'une boussole cadran solaire et je suis déjà en train de perdre patience contre cet objet. Le 10 mai 1534, Jacques Cartier arrive donc sur les côtes de Terre-Neuve, près du Cap de Bonne-Visite. Ce qui me laisse croire qu'il existe un Cap de la Mauvaise-Visite. Ouais, là où les gens arrivent jamais à l'heure, amènent juste un sac de chips pour le party, puis ils repartent avec leur bouteille de vin à la fin de la soirée comme des cheapas. Bref, dès son arrivée dans le golfe du Saint-Laurent, l'équipage d'Européens va pour la première fois entrer en contact avec... d'autres Européens. Ah ouais?
Détail intéressant.
Ouais, la vérité, c'est que ça fait déjà un certain temps au 16e siècle que les côtes de Terre-Neuve sont, je ne vous niaise pas, le spot secret des pêcheurs basques pour venir pogner plein de morues en cachette. En fait, Jacques Cartier est très possiblement tout à fait au courant de tout ça. Il est peut-être même déjà venu pêcher là lui-même. Suite à quoi on se dépêche de faire comme si de rien n'était et on va redescendre vers le sud jusque dans la baie des Chaleurs.
où Jacques Cartier et son équipage vont être accueillis par des membres de la nation Micmac, qui se prononce en fait Mi'kmaq, dans ce qui sera le premier contact. En fait, non. Les Autochtones font déjà du troc avec les pêcheurs basques depuis Belle Lurette, et la raison principale pour laquelle Jacques Cartier va aller à la rencontre des Mi'kmaq, c'est que c'est eux qui leur faisaient signe de s'arrêter en agitant des fourrures sur des bâtons comme des drapeaux. En fait, Jacques Cartier se rend compte que pour un premier contact, c'est même un peu business as usual.
Ouais, Européens, par ici! Êtes-vous toujours game de faire comme d'habitude et d'échanger des peaux de bêtes contre vos objets complètement capotés comme ce que vous appelez des récipients métal? Sérieusement, c'est quoi le deal avec ça? L'eau bout super vite là-dedans et j'ai presque peur de vous demander comment ça marche à tel point c'est fucked up. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? C'est la première fois que vous voyez un autochtone ou quoi? Non, non, c'est juste que je m'attendais à un autre personnage. Voilà tout.
Suite à quoi, le 24 juillet 1534, Jacques Cartier met finalement pied à Gaspé, où il prend officiellement possession du territoire au nom du roi de France, en faisant installer une discrète croix en bois de 30 pieds de haut. Les autochtones présents, des Wendat, vont les voir faire ça, comprendre exactement ce qui se passe et ne pas être d'accord.
Wow, qu'est-ce que vous faites au juste?
Ah, c'est fou, vous ne parlez vraiment pas comme l'idée préconçue que j'avais en tête et ça me fait chier. Bon, que puis-je pour vous?
En fait, c'est que dans notre culture, la terre n'appartient à personne et j'ai comme l'impression que vous êtes en train de faire une autre affaire et que je devrais intervenir avant que ça ne se passe mal pour quelqu'un, genre
nous autres, les autochtones.
Non, ces croix sont en fait des balises géographiques. Et c'est pour ça qu'on en a mis un peu partout en descendant jusqu'ici, en faisant des cérémonies de plus en plus solennelles et codifiées. Chose certaine, là où ça a l'air d'être écrit « Vive le roi de France », dessus, ce sont des coordonnées.
Je ne connais pas encore vos coutumes, mais qu'est-ce que c'est que ce truc que vous faites avec vos doigts, où vous les croisez et vous les mettez dans votre dos? Qu'est-ce que c'est? Nos deux cultures ont tant à apprendre l'une de l'autre.
C'est vrai qu'en plus de poser une grosse croix, on va aussi cartographier le littoral, mais il reste une dernière chose à faire avant de reprendre la route vers la France, et c'est de ramener des preuves qu'on a bel et bien visité le Nouveau Monde. Et vu que les aimants de frigo et les t-shirts qui disent « je suis allé au Nouveau Monde et tout ce que j'ai ramené c'est ce t-shirt » n'existent pas encore, on va ramener plutôt en souvenir deux Wendat. Il y en a qui disent que ceux-ci se seraient portés volontaires, mais la réalité ressemblait pas mal plus à ça.
Détail dark.
La plupart des Autochtones qui étaient ramenés en Europe mouraient là-bas, soit de maladies transmises par les Européens ou de ce qu'on appelait la langueur, qui est surtout une façon poétique de dire être déprimé à mort parce qu'on est super loin de tout ce qu'on n'a jamais connu, dans des villes qui puent, à manger de la bouffe qui pue, puis où tu peux juste parler à des Blancs du 16e siècle qui puent, parce qu'à une certaine époque, on se lavait, mais là, on le fait plus.
Détail phoné pour compenser.
Heureusement, ça ne va pas arriver aux deux Wendat que Jacques Cartier va ramener en France. En fait, ce qui va leur arriver, c'est surtout qu'ils vont trouver que les Européens battent vraiment beaucoup leurs enfants. Ce qui n'est pas le fameux bout de phoné dont je parlais. Pourquoi j'ai décidé de parler de ça, moi? Ah oui, ce qui va se passer, c'est qu'étant donné, je vous le rappelle, que l'objectif, c'est de trouver de l'or et des diamants, on va montrer des métaux précieux au duo qui va répondre qu'on peut effectivement trouver ces métaux-là en Amérique dans le royaume légendaire de Saguenay. Qui, à l'époque, n'était pas encore connu pour sa population de sympathiques alcooliques fonctionnels. Mais c'est pas encore ça qui est amusant, en fait, c'est que la différence entre l'or et un métal simplement brillant, comme de la pyrite de fer, est inconnue des Wendat. Et ça, vous pouvez être certain que quelqu'un va bien se faire baiser là-dessus plus tard. Donc, le 19 mai 1535, Jacques Cartier repart pour une autre expédition avec trois navires cette fois-ci, la Grande Hermine, la Petite Hermine, puis un troisième. L'hermine médium, l'hermine adéquate, la plus petite hermine, qui sait? D'ailleurs, je sais pas trop c'est quoi le trip avec les hermines. Quel animal vicieux! Presque aussi vicieux que la traversée de l'Atlantique, qui cette fois-ci va durer 50 jours de mal de mer, de scorbut et de général emmerdement jusqu'à ce que le 16 juillet, la Grande Hermine arrive à un endroit qui s'appelle les Rochers aux oiseaux, plein de fous de bassin. On va d'ailleurs prendre le temps de se ravitailler avec une coupe d'oiseaux.
Ils ne sont pas habitués aux humains, c'est tellement facile!
Suite à quoi, Cartier se dirige vers le golfe du Saint-Laurent, fleuve que les deux Wendat identifient comme menant tout droit au royaume mythique de Saguenay. Mais en même temps, c'est surtout une façon pour eux de rentrer à la maison, parce que sur leur chemin se trouve leur village de Stadacone, là où on trouve aujourd'hui la ville de Québec et ses autobus qui deviennent apparemment un mot féminin. La bus. OK.
Bonjour, je suis Donnacona, le chef de Stadacone.
Ah, enfin! J'avais peur que vous parliez comme l'autre à la Croix de Gaspé.
Vous vous imaginez qu'on parle tous pareil?
Laissez faire.
Détail intéressant.
La légende raconte que le mot Canada viendrait du terme Haudenosaunee Kanata, qui signifie village. Donc là, la joke, c'est que quand Jacques Cartier va rencontrer le chef Donnacona, celui-ci va lui dire:
By the way, merci de nous avoir ramené ces deux gars que nous croyons tout simplement disparus dans une autre de leurs aventures de stoner farfelu. Ici, ils sont un peu comme nos Harold et Kumar. Mais je vous en prie, accompagnez-nous jusqu'au Kanata. J'ai quelques dopes anecdotes à vous raconter.
Oui, bien sûr, nous sommes au Canada.
Non, Kanata, le village.
Le Canada.
OK, peu importe.
Détail intéressant dans le détail intéressant.
Haudenosaunee, c'est le nom de ceux qu'on a longtemps appelés les Iroquois. Iroquois étant un terme soit basque qui veut dire les tueurs, ou algonquin qui veut dire les serpents à sonnette. Nous ne les appellerons pas comme ça. Haudenosaunee veut en fait dire peuple de la maison longue, ce qui m'évoque déjà des souvenirs d'une fin de semaine beaucoup plus zen. Donc les Français vont bien se plaire au Kanata. Cartier va aussi en profiter pour explorer le Saint-Laurent vers le sud jusqu'à ce qu'il arrive au village d'Hochelaga où, comme d'habitude, on va faire du troc de vieilles patentes européennes pleines de maladies contre à toute fin pratique le droit d'ériger une autre croix.
N'ayez crainte, ce n'est une fois de plus qu'un banal repère topographique. D'ailleurs, nous allons baptiser cette colline Mont-Royal.
Je vous avertis, c'est mieux de pas devenir un endroit où les gens vont pour frencher.
Là, on va leur indiquer qu'ils ont juste à remonter vers le nord pour atteindre l'or mythique du Saguenay. Oui, je vous rappelle que c'est une chasse au trésor, cette histoire-là.
Chaud! Chaud! Ah là, vous êtes froid! Chaud! Brûlant! Brûlant! Vous êtes brûlant! En feu! Vous êtes chaud comme de la braise! Chaud comme de la braise!
Est-ce qu'on fait encore la chasse au trésor ou est-ce qu'il me crouse?
En vérité, on va plutôt leur dessiner des indications sur le sol où on va se rendre compte pour la toute première fois de l'histoire que le Saguenay, c'est à 6 heures de char de toutes. Évidemment, les Français, comme tous les Français qui viennent au Québec aujourd'hui, pensaient qu'ils pourraient tout faire ça en une seule journée. Mais on va finalement revenir à Stadacone, là où il s'était construit un fort, juste à temps pour...
L'hiver québécois! Détail dark.
Évidemment, comme tous les Français qui viennent ici, ils vont trouver que les hivers à moins 30, moins 40 degrés Celsius, c'est trop pour eux. Et malheureusement, leurs bateaux sont maintenant proverbialement jamais dans la glace. C'est là que va s'ajouter une deuxième contrainte de merde, le scorbut, qui est une maladie due à une carence de vitamine C qui te fait saigner des yeux, gonfler les membres avec des bouts noircis pendant que tes dents tombent une à une comme dans tes cauchemars parce que tes gencives spongieuses s'effritent en une cascade de juice. En tout cas, je sais pas ce que ce rêve-là veut dire, mais moi je le fais souvent celui-là. Si bien qu'en février, sur un équipage d'une centaine de personnes, il y en reste juste une dizaine sans gros membres qui puent. À un moment donné, les Autochtones vont finir par s'inquiéter...
Yo, au village, on a remarqué que les Blancs ont l'air pas mal malades et pas mal pâles et puants. Plus que d'habitude, je veux dire. Fait qu'on vous a amené des tisanes médicinales à base de cèdre.
Ah! Ça alors que le grand cric me croque, mes yeux saignent de moins en moins et je me sens sensiblement moins pourri de l'intérieur.
Capitaine, capitaine, est-ce qu'on peut avoir de la tisane miracle, nous aussi? Nos membres sont si gros et nos veines si noires.
Non, je suis maintenant prêt à tuer pour plus de médicaments. Reculez! Recule! Le premier qui touche à ma tisane, je le fais passer par-dessus bord! Bougre d'extrême moule à gaufre, d'australopithèque, de chouk-chouk-nouya! Vous croyez que les jeunes ont le référent de ce que je suis en train de faire?
Et après cet hiver de merde, Jacques Cartier et les quelques marins restants vont décider que c'est peut-être le cue pour revenir en France. Mais juste avant de partir, ils vont en profiter pour s'adonner un petit classique.
Ah, merci pour tout, Donnacona. Vous et votre peuple avez été exemplaires.
D'ailleurs, pour vous remercier avant de partir, j'aimerais vous montrer un petit quelque chose à vous et pourquoi pas à ces deux membres de votre famille. Suivez-moi dans ma cabine.
C'est mieux de ne pas être une astuce pour... Oui, me semblait aussi.
On va les ramener en Europe et cette fois-ci, ils vont tous mourir de maladie. Fast forward 4 ans plus tard et on est prêt pour une troisième expédition pour piller l'or du Saguenay. Cette fois-ci, on décide effectivement d'y aller méga budget. L'objectif, c'est de créer une colonie permanente. On embarque donc plein d'artisans. Le roi fait vider les prisons pour envoyer tout ce monde-là payer leurs dettes en Nouvelle-France parce qu'il n'y a rien de plus fiable pour partir une colonie sans supervision que des criminels. On va aussi envoyer une flotte de bateaux avec plein d'équipements militaires, des soldats, des chevaux, mais il faut croire qu'ils étaient moins têtes sur l'organisation que les ex-prisonniers parce qu'ils seront pas prêts à temps pour le départ de Jacques Cartier.
Oui, finalement, partez sans nous. On va vous rejoindre dans un mois, OK? Quoi que vous fassiez, Cartier, ne touchez à rien, c'est compris?
Désolé, je ne vous entends déjà plus. Touchez à un maximum d'affaires, d'accord?
Et évidemment, Jacques Cartier va bien sûr faire exactement ça. En débarquant à Stadacone avec 5 bateaux et 1500 personnes, on rase la forêt, on installe des vaches un peu partout, des paysans qui cultivent la terre, on construit 2 forts pour se protéger. Et là, les Autochtones vont comme qui dirait perdre patience.
Yo, Européens, nous commençons à être tannés et il me semble que c'est le bout où quelqu'un devrait mettre son poing à sa table. Peu importe ce que c'est qu'une table.
Désolé, je ne vous entends pas. Je suis déjà en train de descendre le Saint-Laurent pour aller piller l'or du Canada. Arrangez-vous avec les colons qui sont restés. Vous allez voir, ils sont super cons.
Cartier se sauve donc, littéralement comme un voleur, vers le royaume légendaire de Saguenay. Mais malheureusement, il va juste réussir à atteindre les rapides de la Chine comme ça.
Détail intéressant pour nous, mais frustrant pour Jacques Cartier.
Bon, tout d'abord, amis français, la Chine, ce n'est pas en Chine. En fait, c'est même pas la bonne direction pour le Saguenay. Donc, les rapides de la Chine, en un seul mot, se trouvent à Lassalle, en un seul mot, et doivent leur nom au fait que Lassalle faisait encore partie de la paroisse de la Chine. Tout est maintenant plus clair. Les rapides de la Chine ont pendant très longtemps été un genre de cul-de-sac naturel pour bateaux qui obligeaient les voyageurs qui voulaient poursuivre leur route à faire du portage sur plusieurs kilomètres avant de remettre les embarcations à l'eau. Il n'y a rien qui frustre plus les gens de plein air que le portage. Ça finit toujours en chicane. Le portage est au couple de tripeux de camping ce que la rénovation d'une salle de bain est pour les autres. Bref, c'est donc impossible pour Cartier de continuer par bateau et pas question de partir à pied avec un navire sur le dos. Fait qu'on est obligé de revenir à Stadacone pour se rendre compte que, bien sûr, les colons ont été des enfoirés avec les Autochtones, entre autres en essayant de les chevaucher comme des poneys, genre littéralement leur monter dessus, c'est même pas sexuel. Effectivement, ça a dû causer une situation diplomatiquement tendue. Le fort de Jacques Cartier est donc mis à siège par les Wendat, mais miraculeusement, Jacques Cartier venait tout juste de trouver plein d'or et de diamants à l'emplacement de l'actuel Cap Diamant à Québec. Et il y en aura suffisamment pour remplir 10 tonneaux, Géribois, c'est quoi les chances? Et on en profite pour retourner en France au plus sacrant. Cartier retourne finalement, tel que promis, à la cour de François Ier avec des tonneaux d'or et de diamants qui, en fin de compte, ne sont que du quartz et de la pyrite de fer, également appelé l'or des fous. Jacques Cartier a effectivement l'air fou et tout le monde se moque de lui, même le roi.
Oh, oh, oh! Pour un malouin, vous n'êtes pas très malin, Cartier.
Oh, 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 oh. Je...
Ce qui va donner naissance à l'expression « aussi faux qu'un diamant du Canada ». Eh ben, fin! Et c'est maintenant le moment de l'entracte entre nos deux histoires. Imaginez-vous que c'est comme dans les vieux films hollywoodiens, quand il y avait une intermission pour permettre aux gens d'aller pisser puis fumer des clopes. Quoique, je pense pas que le public qui a connu cette époque-là écoute mon podcast. En tout cas, il ne devait plus en rester beaucoup. Allez hop, intermission!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
De retour à la Nouvelle-France. Pendant que vous faisiez pipi, notre bon vieux chum, le navigateur Samuel de Champlain, a fondé en 1608 le premier comptoir permanent de traite des fourrures à Québec, ville qui, je vous le rappelle, a grosso modo pris la place du village de Stadacone, et le commerce de vieux animaux morts va devenir la raison d'être de la colonie. Voilà, l'histoire du Québec. Et dire qu'il y en a qui ont eu la Grande Muraille de Chine et Napoléon Bonaparte. Allez, on repart!
La bataille des plaines d'Abraham.
Dans les années qui vont suivre, la colonie va fleurir en une joyeuse bourgade de sympathiques habitants, les Canadiens français. Effectivement, si en 1640, la colonie compte moins de 300 nonos qui se sont fait avoir à se geler les fesses au Canada dans des vieux chacs avec des chapeaux qui étaient un raton laveur l'avant-midi même, une fois de plus que l'histoire, il va y avoir un boom de population à partir des années 1660, notamment à cause des filles du roi.
Détail intéressant.
Grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'en 1668, l'intendant du roi en Nouvelle-France, un certain Jean Talon, comme le marché où on tournait des kiwis et des hommes avec Francis Rédé, Boucard Diouf et la désormais célèbre palourde qui a l'air d'un pénis, va se rendre compte que la colonie est effectivement un colossal party de palourdes. C'est-à-dire de 6 à 14 hommes pour une femme. Il va donc se dire qu'en faisant venir plus de 700 femmes en l'espace de 10 ans, ça devrait s'équilibrer. C'était des jeunes femmes non mariées, mais aussi des veuves, des vieilles filles ou juste des femmes pauvres, leur point en commun étant qu'elles n'avaient pas les moyens de subvenir à leurs besoins et de se payer une dot pour se marier. C'est donc le roi de France qui va jouer les entremetteuses et payer la dot lui-même de sa grosse poche de sugar daddy.
Mesdames, regardez en dessous de vos sièges! Vous avez une dot! Vous avez une dot! Vous avez une dot! Tout le monde a une dot!
Histoire que les soirées dansantes en Nouvelle-France, ce soit autre chose que 14 dudes qui dansent entre eux pendant que la seule femme sur le plancher est complètement surbookée. Ces filles du roi vont donc faire le voyage de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui est pratique, j'imagine, quand t'es une gang de filles, parce qu'elles peuvent se tenir les cheveux entre elles lorsqu'elles ont des haut-le-cœur à cause du mal de mer.
Détail dégueulasse, mais intéressant néanmoins.
À l'époque, pour ramasser quand tu vomissais par terre dans le bateau, on faisait entrer les cochons qui mangeaient le vomi. Intéressant, non?
Oh, ça me donne encore plus envie de vomir!
Oh, pour l'amour du ciel, quoi que vous fassiez, ne vomissez pas! Quand elles arrivent finalement à Québec, les hommes attendent impatiemment les filles du roi sur le quai en faisant « Oh! » inconscient de toutes ces anecdotes de vomi. Et celles qui trouveront pas de match là où le fleuve se rétrécit, ça veut dire Québec et slash ou un euphémisme sexuel particulièrement spicy, bref, pourront tenter leur chance au speed dating de la Nouvelle-France à Trois-Rivières ou à Montréal, et les filles du roi vont avoir en moyenne 9 enfants par famille, suffisamment pour qu'en 1682, la colonie dépasse les 10 000 habitants. De façon à ce que bientôt, Jean Talon envoie une lettre au roi pour lui dire qu'il est maintenant temps de laisser tout ce monde-là fourré entre eux autres.
Détail badass!
Je fais des jokes de foufoune, mais prenons ici le temps de nous rappeler à quel point les filles du roi sont des putains d'héroïnes. Ouf, cette phrase-là était glissante. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit quand même de jeunes femmes qui vont être catapultées dans un monde auquel elles connaissent rien, histoire d'aller accoucher à moins 35 dans la neige, à même un territoire supra-hostile, où elles vont néanmoins construire des maisonnées et des communautés, et ça en donnant littéralement comme figurativement naissance à une nation. Ces femmes!
âme.
Sont ni plus ni moins que des forces de la nature, et c'est pas pour rien que le personnage de la fille du roi, en étant aussi récurrent dans les festivals de reconstitution historique, même si plus souvent qu'autrement, c'est pour vendre des savons. Entre-temps, les Anglais se sont installés sur la côte atlantique en Virginie, en Nouvelle-Angleterre, où ils vont établir 13 colonies composées de gens dont plus personne ne voulait en Angleterre pour 13 raisons différentes. Mais qui en Amérique vont devenir un tout super fonctionnel, avec des industries et des ports ouverts à l'année longue où les bateaux sont pognés dans la glace. D'ailleurs, la vérité, c'est que la France commence à se désintéresser de plus en plus de sa colonie, et avec raison. Tout ce qu'on produit, c'est de la fourrure qui rapporte de moins en moins. Puis pendant ce temps-là, la maîtresse du roi Louis XV, Madame de Pompadour, arrête pas de lui dire de se débarrasser de cette vieille affaire-là, comme s'ils venaient d'emménager ensemble puis que la Nouvelle-France était une espèce de vieux sofa avec une valeur sentimentale parce qu'on y avait beaucoup frenché à l'université.
Oh, Louis XV, mon chéri, mettez-moi ça au chemin et remplacez-le par un sofa de style... vous.
Est-ce qui nous amène en 1754 au début de la guerre de 7 ans? Qui n'est ni plus ni moins que la première guerre d'envergure mondiale, ainsi qu'un conflit flou et difficile à expliquer, où essentiellement Français et Anglais se détestent depuis toujours. Fin! Bisbee, qui vont évidemment exporter de l'autre côté de l'Atlantique, et contrôler de loin comme si c'était des autotéléguidés. Donc, d'un côté, pour défendre le Québec, la France va envoyer le général Louis-Joseph de Montcalm, qui... s'entorche de la Nouvelle-France. Oupsie. L'affaire, c'est que Montcalm, c'est un officier de second plan qui va être envoyé au Canada parce que tous les autres généraux trouvaient que c'était une affectation de gros balourds beaucoup trop relou. Chose certaine, Montcalm ne connaît rien à la Nouvelle-France. Il est grosso modo là pour faire sa job en se faisant chier le moins possible, même si ça se finit en défaite, parce qu'il veut sacrer le camp au plus vite. En fait, il aime pas vraiment les Canadiens français. Il trouve qu'on est des barbares un peu ploucs qui sentent le persil.
Détail intéressant!
En effet, ça a l'air qu'à l'époque de la Nouvelle-France, quand on voulait se rafraîchir la laine, au lieu de croquer dans de la menthe, on mâchait des poignées de persil, faisant l'audacieux choix de se promener avec une haleine de taboulé. Pourquoi pas? Mais ce qui faisait véritablement perdre son calme à Montcalm, c'est que les milices de Nouvelle-France ont appris à faire la guerre à la manière de leurs voisins autochtones.
Détail intéressant encore!
Effectivement, au 18e siècle, la guerre à l'européenne est une entreprise un peu conne en standard d'aujourd'hui. Les mousquets du 18e sont imprécis et l'objectif, c'est donc toujours de tirer en grosse formation carrée où une rangée se fait décimer par un mur de projectiles pendant que les autres en arrière rechargent en capotant. Pas le droit de tirer sans avoir reçu l'ordre d'un supérieur et tous les déplacements se font en bloc avec un gars qui joue du tambour. Or, les Autochtones, eux, vont nous apprendre qu'on peut aussi juste pas faire ça puis se cacher derrière un arbre pour tirer quand on veut, surtout sur les officiers ennemis qui pouvaient plus donner l'ordre de tirer et là, tout le reste du bataillon devait juste attendre en se faisant progressivement canarder parce qu'eux sont habitués à un cadre militaire super rigide de gentleman dont tout le monde se calisse. Bref, les Européens détestait quand on faisait ça. Par ailleurs, Montcalm est pas chaud non plus à l'idée de se battre en compagnie d'alliés autochtones. Ouais, à un moment donné, il y en a d'ailleurs un qui va faire l'erreur d'amener dans son bureau des scalps d'anglais.
Et hop! Scalps d'anglais!
Oh mon Dieu, nasty!
OK, vous aussi, vous trouvez ça dégueu, c'est pas juste moi.
Détail dark...
Prendre le cuir chevelu d'un adversaire comme trophée est une pratique ancestrale pour laquelle il existe deux méthodes. Et manifestement, j'ai décidé d'expliquer ça comme si c'était un segment d'art plastique. Première méthode. Tirer les cheveux de la victime et couper là où la peau du cuir chevelu est tendue, un peu comme quand on stream une région délicate du scrotum, pas vrai, messieurs? Ou encore, la deuxième option plus audacieuse, faire une série d'incisions autour de la tête et tirer très fort jusqu'à ce que tout se décalote avec un son de pilon de toilette. Mais pourquoi fait-on ça, vous allez me demander? Plus souvent qu'autrement, pour prouver à quelqu'un qu'on a tué quelqu'un d'autre sans avoir à trimballer un gros cadavre zéro ergonomique. Quoique même là, il y a des cas où des gens ont survécu à être scalpés, puis même pire encore, qui se sont fait scalper plus d'une fois dans leur vie, étant ainsi pognés à se réveiller à répétition en faisant
« Oh non, pas encore! »
Dans les faits, c'est une pratique qui va surtout être encouragée par les Européens chez leurs alliés autochtones qui vont utiliser pour faire la guerre à leurs compétiteurs à leur place. Donc oui, peut-être qu'à quelque part, il y avait un Autochtone un petit peu plus sur le jus qui tripait à flasher sa collection de scalps, mais dans les faits, chez eux aussi, se balader avec un vieux morceau de cuir chevelu pourri, c'était considéré comme complètement nasty. C'est donc parti pour 7 ans de guerre dans les colonies, essentiellement livrée comme une partie de golf entre gentilshommes où les officiers des deux côtés s'envoient même des cadeaux entre eux autres. Eh ben,
Oh, I say, mon calme nous a envoyé une boîte de macarons. Mais voyons, qu'est-ce que c'est? On dirait des mini hamburgers multicolores. Où sont mes petits tas de coconuts sucrés avec une consistance de vieille rognure d'ongle?
Pendant ce temps, en Angleterre... Ça fait quand même un certain temps qu'on a des visées sur le reste de l'Amérique et ses ressources infinies. Mais le chemin de l'expansion anglaise est bloqué par la Nouvelle-France qui, je vous le rappelle, est une colonie dont tout le monde se fout et que la France garde en place spécifiquement pour faire chier les Anglais. Donc, histoire de prendre Québec une bonne fois pour toutes, la couronne britannique va envoyer en Nouvelle-France une armada de 120 navires et 30 000 soldats, à la tête de laquelle on va placer un jeune officier de 32 ans qui avait la réputation d'être un esti de malade, James Wolfe. Effectivement, c'est le plus jeune général de l'armée britannique qui est reconnu pour ses manœuvres téméraires super payantes aux grandes dames de ses lieutenants qui s'arrachent les cheveux de la perruque.
Détail dark.
La réputation d'esti de malade de James Wolfe vient peut-être du fait qu'il est littéralement malade en esti. On raconte qu'il y avait une maladie qui lui faisait constamment pisser du sang avec un nom beaucoup trop évocateur à mon goût, le gravier. Je peux le sentir dans mon urètre en l'écrivant. Effectivement, je comprends pourquoi quelqu'un déciderait de privilégier les moves de casse-cou pour que la mort vienne te soulager de ton incapacité à te soulager. Donc en 1759, Wolfe arrive avec sa flotte devant Québec avec la ferme intention d'en finir au plus vite parce qu'il y a environ 100 jours avant l'hiver et que ses bateaux restent jamais dans la glace. C'est-tu que j'aime le Québec? Ma vitre est peut-être un jardin de givre, mais mon fleuve, c'est définitivement un piège à bateaux. Par ailleurs, en arrivant, Wolfe est très impressionné par les défenses de Québec qui, pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance d'aller visiter la ville pour se faire prendre en photo devant le château Frontenac avec une grue qui ruine tout, est une ville fortifiée qui surplombe des falaises dans un passage étroit plein de grosses roches, ce qui rend l'invasion hasardeuse et doit rappeler à Wolfe la situation avec son urètre.
La guerre psychologique est commencée, à ce que je vois. Well played, mon calm, well played. Bon, tout le monde, bouchez-vous les oreilles. J'ai une très grosse envie de pisser, alors ça risque de résonner jusqu'au chute Montmorency.
Et à partir de ce moment-là, ça va être le début d'un titanesque sketch de Tom et Jerry entre Wolfe et Montcalm. Tout d'abord, Montcalm va commencer par envoyer des barques pleines de tonneaux de poudre allumés aux Anglais, mais les mèches vont être mal calibrées et tout va péter beaucoup trop tôt.
Ha ha! Stupide Wolfe! Tu es tombé dans mon piège!
Oh, by Jove! Quelqu'un aurait pu se faire très mal! Bien joué, Montcalm, vieux garçon!
Non, oh, c'est le feu d'artifice le plus coûteux que j'ai vu de ma vie. J'ai tellement hâte que ça finisse.
Suite à quoi, Wolfe va faire installer ses batteries de canon sur la rive adjacente.
Maintenant, nous allons montrer à ces scélérats comment faire la guerre comme des gentils hommes. Feu à volonté!
Face à quoi tout le monde va faire? Mais non, ça se rendra jamais, sti. Oh non, ça sera. Est-ce que ça sera? Oh, ça sera! Ça sera tellement! Et la ville va être pilonnée comme une marmotte à la foire pendant 2 mois et demi. Pendant ce temps-là, Montcalm reste confortablement retranché dans ce qui reste de Québec. Puis là, l'automne arrive et les Anglais, de plus en plus pressés, doivent se dépêcher s'ils veulent pas être pognés dans la glace et obligés de pelleter. Et malheureusement pour eux, il leur sera impossible d'utiliser ma technique et juste sortir du banc de neige en te donnant de 12 à 42 swings à pleine vitesse avec ton char. Pour Wolfe, c'est la dernière chance. Et ça tombe bien parce que c'est pile à ce moment-là qu'il va avoir une idée de malade. C'est-à-dire un débarquement de nuit à Lance au Foulon où se trouve une falaise abrupte où passerait jamais une armée en temps normal, menant directement à côté de Québec sur les plaines d'Abraham. Oh oh!
La bataille des plaines d'Abraham!
Donc, dans la nuit du 12 au 13 septembre, Wolfe et son armée se laissent dériver en pleine obscurité dans des canots et par une chance très enrageante pour Biz de Locolocasse, ils vont arriver au bon endroit sans encombre. En fait, non. En chemin, il y a un Français qui va les spotter, mais heureusement, les Britanniques avaient un gars qui parle français.
Halte là! Qui vive? Nous amenons des provisions de Montréal. Tout est super normal.
Ah, merci, ami français.
Non,
Merci à toi de faire sûr que tout est OK.
Hey, vous seriez pas un petit gars de l'Outaouais par hasard?
Bref, à 4 heures du matin, les Anglais atteignent leur destination. En fait, non. Ils vont rater l'anse au foulon avec les premières barques et arriver à un endroit encore plus à pic qu'on escalade anyways en transportant nul autre que des canons parce qu'on pense que c'est la même falaise. Tout ça de nuit en s'envoyant des branches d'en face.
Ouch! Oh! Ow! Oh! Ouch! Ceci est très peu orthodoxe. Oh! Ouch! Quoi que vous fassiez, ne lâchez pas le canon, vieille arme. Ouch!
Et on se ramasse ainsi directement à l'intérieur du dispositif de défense français avec 4000 hommes, les armes, la poudre, le matériel, plein de scratchs de branches d'en face puis deux canons. Sauf que les Anglais se rendent compte bien vite que personne les attend sur les plaines d'Abraham. Ce qui se passe, c'est que Montcalm, de son côté, était persuadé qu'ils allaient débarquer sur la plage de Beauport, où il les attend de pied ferme, mais 100% au mauvais endroit, et de par le temps que quelqu'un vienne le prévenir, il est déjà 7 heures du matin, et Wolfe s'emmerde maintenant tout seul avec un petit 3000 soldats supplémentaires. Donc Montcalm arrive vers 9h30 à plein galop en faisant
« Merde, 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 nya! Merde, 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 nya! »
Malheureusement pour lui et ses chances de gagner, même s'il y a beaucoup plus de soldats que les Anglais, ceux-ci sont essoufflés parce qu'ils joguent en arrière depuis Beauport. Et de son côté, Wolfe va se rendre compte que les forces sont déséquilibrées, mais dans un autre gamble de malade, il va essayer d'annuler l'avantage du nombre en ordonnant à ses soldats de charger 2 balles par mousquet, ce qui devrait faire 2 fois plus de dommages, mais il faut que tu tires 2 fois plus proche. Un plan follement génial qui ne peut que sortir de l'esprit imprudent de quelqu'un qui a donc hâte d'en finir parce qu'il sait qu'il ne pourra pisser confortablement que dans la mort. Ouais, ça fait pas mal de jokes de gravier. C'est la dernière, promis.
Non, je crois qu'il en reste encore un peu.
Les Anglais reçoivent donc l'ordre de ne pas bouger, par conséquent de ne pas tirer, avant que les Français soient à une 30aine de pas, ce qui est vraiment proche. Et pour ne pas bouger, ils vont pas bouger, parce que même quand ils vont se faire tirer dessus par les milices et les alliés autochtones qui vont freestyle sans attendre les ordres des Français, les troupes vont se laisser tuer avec un flegme dangereusement anglo-saxon.
Oh. 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 Seigneur. Oh. Ce thé manque cruellement de citron. Oh.
Et 300 d'entre eux vont mourir comme ça avant même le début de la bataille. Là, ça part! Montcalm s'est fait supplier d'attendre des renforts, mais il va pas faire ça parce qu'il croit que les troupes de Wolfe, c'est juste une avant-garde britannique et il doit se dépêcher de les éliminer avant l'arrivée de forces qui n'existent pas. Donc, il va donner l'ordre aux soldats français de tirer et se rendre compte que ceux-ci sont beaucoup trop loin. Au lieu, on va essayer de charger les Anglais, mais ils sont tellement loin que la charge est super longue, donc tout le monde arrive essoufflé comme des gros trentenaires bedonnants. Ça se désorganise en cours de route, on va s'emballer puis s'arrêter, peut-être un petit peu trop proche des Anglais, genre à moins de 30 pas, avec le même effet que quand tu trichais à Duck Hunt puis que tu collais ton gun directement à sa TV. Les volées anglaises sont désastreuses pour les Français, c'est la débandade. Du côté des Anglais, c'est cependant pas un 10 sur 10 parce que Wolfe va se pogner une balle dans la main et au poumon.
Ah! Ma plus belle tasse.
Et on le retire du champ de bataille où, dans ses derniers instants, il va pouvoir dire adieu à sa vessie granuleuse et observer les Français en déroute en faisant
« Oh, je meurs et ce running gag aussi. »
Montcalm, quant à lui, va être atteint d'une balle dans le dos et mourir la nuit suivante en faisant
« Au moins, je ne verrai pas les Anglais entrer dans Québec. C'est moi ou c'est pas aussi le fun que pour Wolfe.
Et voilà. C'est ça, la bataille des plaines d'Abraham. Une escarmouche un peu poche qui aura duré moins de 20 minutes. Et à partir de là, vous savez ce qui va se passer. Québec est perdu, la Nouvelle-France passe aux Anglais en échange des colonies de canne à sucre en Guadeloupe. Régime britannique, le Haut-Canada, le Bas-Canada, la révolte des Patriotes, Émile Nelligan, le Foreman à Shop, c'est un bloc, Maurice Richard, la Grande Noirceur, la Révolution tranquille, l'Expo 67, Gilles Vigneault, René Lévesque, deux référendums, le Printemps érable, Céline, c'est plaines d'Abraham. Et pourquoi pas moi qui finis cette phrase?
Le fin mot de l'histoire avec un grand H.
Qu'est-ce qu'il y a à soutirer de tout ça, vous allez me demander? L'histoire de la Nouvelle-France, c'en est une, oui, d'aventure et d'exploration, mais aussi de beaucoup de violence et de roublardise relative à un monde à la frontière de la carte pour les Européens qu'on va constamment essayer de voler aux nations autochtones. Et ce, dans une espèce de Far West français avec ses propres brigands de grand chemin, des coureurs des bois, ses propres évasions spectaculaires, de la torture, des exécutions, de la débauche, des totons, et éventuellement le Québec tabarnak, qui est encore aujourd'hui quelques-unes de ces affaires-là. On a souvent tendance à relire l'histoire du Québec en se disant « Ah, les choses auraient été bien différentes si telle affaire s'était passée ou si telle autre affaire s'était pas passée. » Oui, je veux bien, mais là, attendez, avant de venir vandaliser ma maison, et si tout ça faisait partie de notre identité? Ouais, dans les siècles qui vont suivre la conquête, on va essayer d'assimiler les francophones et d'en faire de bons citoyens britanniques, mais vous remarquerez, les amis, que vous êtes actuellement en train d'écouter un podcast en français, et ce, au 21e siècle, dans un continent majoritairement anglophone. Et c'est pas merveilleux, ça? On est restés les seuls, sur tout le continent nord-américain, à préférer le Pepsi. Ouais, s'il y a des Français qui nous écoutent, sortez de la pièce, c'est plus pour vous ce bout-là. Bon, maintenant qu'on est entre Kebs, j'aimerais juste conclure en vous rappelant à quel point on est chanceux d'avoir cette bonne vieille province où on mène des existences sensiblement paisibles parce que tout le monde se sac de nous autres. Maintenant, faites-moi le plaisir de garder le secret et pour l'amour du ciel, arrêtez de le dire aux Français. Je m'appelle Charles Beauchesne et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une idée originale de Charles Beauchesne. Au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, Audrey Rousseau et François de Grandpré, qui remercie également le professeur Robert Falcon Ouellet pour ses précieux conseils. À la réalisation, Barbara Judith Caron. Au montage, Alexandre Sarkis. Au son, le studio La Chope. À la coordination, Dominique Maheu. À la production, Rosalie Granger. Producteur exécutif, Raphaël Huysmans et Philippe Lamarre. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une production Urbania.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.